Chapitre 4. L'anniversaire. Pendant le récit que nous venions d'entendre, le temps s'était pris peu à peu, et le ciel paraissait couvert comme d'une immense tenture grise sur laquelle se détachait, par une teinte brune plus foncée, le nuage qui avait attiré l'attention du capitaine. De temps en temps, de légères bouffées de vent passaient, et l'on avait ouvert notre grande voile pour en profiter, car le vent, venant de l'est, eût été excellent pour nous conduire à Palerme, s'il avait pu se régler. Mais bientôt, soit que ces bouffées cessassent d'être fixes, soit que déjà les premières haleines d'un vent contraire nous arrivassent de Sicile, la voile commença à battre contre le mât, de telle façon que le pilote ordonna de la carguer. Lorsque le temps menaçait, le capitaine résignait aussitôt, je crois l'avoir dit, ses pouvoirs entre les mains du vieux Nunzio, et redevenait lui-même le premier et le plus docile des matelots. Aussi, à l'injonction faite par le pilote de débarrasser le pont, le capitaine fut-il le plus actif à enterrer notre table et à aider Jadin à rentrer dans sa cabine son tabouret et ses cartons. Du reste, le portrait était fini, et de la plus exacte ressemblance, ce qui avait combattu chez le capitaine par un sentiment de plaisir l'impression douloureuse que lui avait causé le souvenir sur lequel nous l'avions forcé de s'arrêter. Cependant, le temps se couvrait de plus en plus, et l'atmosphère offrait tous les signes d'une tempête prochaine. Sans qu'ils eussent été prévenus le moins du monde du danger qui nous menaçait, nos matelots, pour qui l'heure de dormir était venue, s'étaient réveillés comme par instinct et sortaient les uns après les autres, et le nez en l'air, par l'écoutille de l'avant. Puis ils se rangeaient silencieusement sur le pont, clignant de l'œil, et faisant un signe de tête qui voulait certainement dire « Bon, ça chauffe. » Puis toujours silencieux, les uns retroussaient leurs manches, les autres jetaient bas leurs chemises. Filippo seul était assis sur le rebord de l'écoutille, les jambes pendantes dans l'entrepont, la tête appuyée sur sa main, regardant le ciel avec sa figure impassible et sifflotant par habitude l'air de la tarentelle. Mais cette fois, Pietro était sourd à l'air provocateur, et il paraît même que cette mélodie monotone parut quelque peu intempestive au vieux Nunzio. Car, montant sur le bastingage du bâtiment sans lâcher le timon du gouvernail, il passa la tête par-dessus la cabine et s'adressant à l'équipage comme s'il ne voyait pas le musicien, « Avec la permission de ces messieurs, dit-il en ôtant son bonnet, qui est-ce donc qui siffle ici ?»« Je crois que c'est moi, vieux, répondit Filippo, mais c'est sans y faire attention, en vérité de Dieu. »« À la bonne heure, dit Nunzio, et il disparut derrière la cabine. Filippo se tut. La mer, quoique calme encore, changeait déjà visiblement de couleur. De bleu d'azur, qu'elle était une heure auparavant, elle devenait gris de cendre. Sur son miroir terne venaient éclore de larges bulles d'air qui semblaient monter des profondeurs de l'eau à la surface. De temps en temps, ces légères rafales que les marins appellent des pattes de chat égratignaient sa nappe sombre et laissaient briller trois ou quatre raies d'écume, comme si une main invisible l'eût battue d'un coup de verge. Notre spéronard, qui n'avait plus de vent, et que nos matelots ne poussaient plus à la rame, était sinon immobile, du moins stationnaire, et roulait, balancé par une large houle, qui commençait à se faire sentir. Il y eut alors un quart d'heure de silence, d'autant plus solennel que la brume qui s'étendait autour de nous nous avait peu à peu dérobé toute terre, et que nous nous trouvions sur le point de faire face à une tempête qui s'annonçait sérieusement, non pas avec un vaisseau, mais avec une véritable barque de pêcheurs. Je regardais nos hommes, ils étaient tous sur le pont, prêts à la manœuvre et calmes, mais de ce calme qui naît de la résolution et non de la sécurité. « Capitaine, dis-je au patron en m'approchant de lui, n'oubliez pas que nous sommes des hommes, et si le danger devient réel, dites-le-nous. » « Soyez tranquille, répondit le capitaine. « Eh bien, pauvre Milord, dit Jadin en donnant à son bouledogue une claque d'amitié qui aurait tué un chien ordinaire. Nous allons donc voir une petite tempête. Ça vous fera-t-il plaisir, hein ?» Milord répondit par un hurlement sourd et prolongé, qui prouva qu'il n'était pas tout à fait indifférent à la scène qui se passait, et qu'instinctivement, lui aussi, pressentait le danger. « Le Mistral !» cria le pilote en levant sa tête au-dessus de la cabine. Aussitôt, chacun tourna ses yeux vers l'arrière. On voyait, pour ainsi dire, venir le vent. Une ligne d'écume courait devant lui, Et derrière cette ligne d'écume, on voyait la mer qui commençait à s'élever en vagues. Les matelots s'élancèrent, les uns au beaupré, et les autres au petit mât du milieu, et déployèrent la voile de phoque et une petite triangulaire dont j'ignore le nom, mais qui me parut correspondre à la voile du grand hunier d'un vaisseau. Pendant ce temps, le mistral arrivait sur nous comme un cheval de course, précédé d'un sifflement qui n'était pas sans quelque majesté. Nous le sentîmes passer. Presque aussitôt, notre petite barque frémit. Ses voiles se gonflèrent comme si elles allaient rompre. Le bâtiment enfonça sa proue dans la mer, la creusant comme un vaste soc de charrue, et nous nous sentîmes emportés comme une plume au vent. Mais, dis-je au capitaine, il me semble que dans les gros temps, au lieu de donner prise à la tempête, comme nous le faisons, on abaisse toutes les voiles. D'où vient que nous n'agissons pas comme on agit d'habitude ? Oh, nous n'en sommes pas encore là, me répondit le capitaine. Le vent qui souffle maintenant est bon, et si nous l'avions seulement pendant 12 heures, à la 13e, nous ne serions pas loin. Je ne dis pas de Païenne, mais de Messine. Tenez-vous beaucoup à aller à Palerme plutôt qu'à Messine ? Non, je tiens à aller en Sicile, voilà tout. Et vous dites donc que le vent que nous avons à 7 heures est bon ? Excellent, mais c'est que par malheur, il a un ennemi mortel, c'est le Sirocco. Et que, comme le Sirocco vient du sud-est et le Mistral du nord-ouest, quand ils vont se rencontrer tout à l'heure, ça va être une jolie bataille. En attendant, il faut toujours profiter de celui que Dieu nous envoie pour faire le plus de chemin possible. En effet, notre spéronard allait comme une flèche, faisant voler sur ses deux flancs de larges flocons d'écume. Le temps s'assombrissait de plus en plus. Les nuages semblaient se détacher du ciel et s'abaisser sur la mer. De larges gouttes de pluie commençaient à tomber. Mais nous fîmes ainsi, en moins d'une heure, 8 à 10 milles à peu près. Puis la pluie devint si violente que, quelque envie que nous eussions de rester sur le pont, nous fûmes forcés de rentrer dans la cabine. En repassant près de l'écoutille de l'arrière, nous aperçûmes notre cuisinier qui roulait au milieu d'une douzaine de tonneaux ou de barriques, aussi parfaitement insensible que s'il était mort. Depuis le moment où nous avions mis le pied à bord, le mal de mer l'avait pris, et nous n'avions pu, à l'heure des repas, en tirer autre chose que des plaintes déchirantes sur le malheur qu'il avait eu de s'embarquer. Nous rentrâmes dans la cabine, et nous nous jetâmes sur nos matelas. Milord, devenu doux comme un agneau, suivait son maître la queue et la tête entre les jambes. À peine étions-nous dans la cabine, que nous entendîmes un grand remue-ménage sur le pont, et que les mots « Bourrasque, bourrasque », prononcé à haute voix par le pilote, attirèrent notre attention. Au même moment, notre petit bâtiment se mit à danser de si étrange sorte que je compris que le Sirocco et le Mistral s'étaient enfin rejoints et que ces deux vieux ennemis se battaient sur notre dos. En même temps, le tonnerre se mit de la partie et nous entendîmes ses roulements au-dessus du tapage infernal que faisaient les vagues, le vent et nos hommes. Tout à coup et au-dessus du bruit de nos hommes, du vent, des vagues et du tonnerre, nous entendîmes la voix du pilote, criant avec cet accent qui veut l'obéissance immédiate. « Tutto a basso, tout à bas !» Le pont retentit des pas de nos matelots et de leurs cris pour s'exciter l'un l'autre. Mais malgré cette bonne volonté qu'ils montraient, le spéronard s'inclina tellement à bâbord que, ne pouvant me maintenir sur une pente de 40 à 45 degrés, je roulais sur Jadin. Nous comprîmes alors qu'il se passait quelque chose d'insolite, et nous nous précipitâmes vers la porte de la cabine. Une vague, qui venait pour y entrer, comme nous allions pour en sortir, nous confirma dans notre opinion. Nous nous accrochâmes à la porte, et nous nous maintâmes malgré la secousse. Quoiqu'il ne fût que 5 ou 6 heures du soir, à peu près, on ne voyait absolument rien, tant la nuit était noire, et tant la pluie était épaisse. Nous appelâmes le capitaine pour savoir ce qui se passait. On nous répondit par des cris confus. En même temps, un roulement de tonnerre effroyable se fit entendre. Le ciel parut s'enflammer et se fendre. Et nous vîmes tous nos hommes, depuis le capitaine jusqu'aux mousses, occupés à tirer la grande voile dont les cordes mouillées ne voulaient pas rouler dans les poulies. Pendant ce temps, le bâtiment s'inclinait toujours davantage. Nous marchions littéralement sur le flanc et le bout de la vergue trempait dans la mer. « Tout à bas !» continuait de crier le pilote, d'une voix qui indiquait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. « Tout à bas, au nom de Dieu !»« Taillez, coupez !» cria le capitaine. « Il y a de la toile à Messine, par Dieu !» En ce moment, nous vîmes, pour ainsi dire, voler un homme au-dessus de notre tête. Cet homme, ou plutôt cette ombre, sauta du toit de la cabine sur le bastingage, du bastingage sur la vergue. Au même instant, on entendit le petit cri d'une corde qui se rompt. La voile, de tendue et de gonflée qu'elle était, devint flottante et s'arracha elle-même au lien qui la retenait tout le long de la vergue. Un instant encore arrêtée par le dernier lien, elle flotta comme un énorme étendard au bout de la vergue. Enfin, ce dernier obstacle se rompit à son tour et la voile disparut comme un nuage blanc emporté par le vent dans les profondeurs du ciel. Le Spéronard se releva. Tout l'équipage jeta un cri de joie. Quant au pilote, il était déjà retourné à son poste et assis à son gouvernail. « Ma foi, » dit le capitaine en s'approchant de nous, « nous l'avons échappé belle, et j'ai cru un instant que nous allions tourner cap dessus, cap dessous. Et sans le vieux qui s'est trouvé là, à point nommé, je ne sais pas comment ça allait se passer. « Dites donc, capitaine, » demandai-je, « il me semble qu'il a bien mérité une bouteille de vin de Bordeaux, si nous la lui faisions monter. Demain, pas ce soir. Ce soir, pas un seul verre. Nous avons besoin qu'il ait toute sa tête, voyez-vous. C'est Dieu qui nous pousse, et c'est lui qui nous conduit. » Pietro s'approcha de nous. « Que veux-tu ? » lui demanda le capitaine. « Moi, rien, capitaine. Seulement, sans indiscrétion, est-ce que vous avez oublié de lui faire dire sa messe à cet animal-là ? » « Silence, » dit le capitaine. « Ce qui devait être fait a été fait. Soyez tranquille. » « Mais alors, de quoi se plaint-il ? » « Tiens, Pietro, veux-tu que je te dise ?» reprit le capitaine. « Tant qu'il me restera un sou de son maudit argent, je crois que ce sera comme cela. Aussi, en arrivant à la Pace, je porte le reste à l'église des Jésuites et je fais une fondation annuelle. Parole d'honneur. »« Ils y tiennent, » dit Jadin. « Que diable voulez-vous, mon cher ? » repris-je. « Le moyen de ne pas être superstitieux, quand on se trouve sur une pareille coquille de noix, entre un ciel qui flambe, une mer qui rugit, et un tas de vents qui viennent, on ne sait d'où. J'avoue que je suis comme le capitaine, tout prêt à faire dire aussi une messe pour l'âme de ce bon monsieur Gaétane. Ne vous engagez pas trop, me dit Jadin. Il me semble que voilà le calme qui revient. En effet, il y avait en ce moment, entre le Sirocco et le Mistral, une espèce de trêve, de sorte que le bâtiment était redevenu un peu tranquille, quoiqu'il eût encore l'air de frémir comme un cheval effrayé. Le capitaine alors monta sur un banc, et par-dessus le toit de la cabine, échangea quelques paroles avec le pilote. « Oui, oui, » dit celui-ci, « il n'y aura pas de mal, quoique nous n'ayons pas pour bien longtemps à être tranquilles. Oui, cela nous fera toujours gagner un mille ou deux. »« Qu'allons-nous faire ? » demandai-je. « Profitez de ce moment de bonasse pour marcher un peu à la rame. »« Oui, les enfants, » continua-t-il, « au rame, au rame. » Les matelots s'élancèrent sur les avirons, qui s'allongèrent par-dessus les bastingages, comme les pattes de quelque animal gigantesque, et qui commencèrent à battre la mer. Au premier coup, le chant habituel de nos matelots commença. Mais à cette heure, après le danger que nous venions de courir, il me sembla plus doux et plus mélancolique que d'habitude. Il faut avoir entendu cette mélodie en circonstances pareilles, et dans une nuit semblable, pour se faire une idée de l'effet qu'elle produisit sur nous. Ces âmes qui chantaient ainsi, entre le danger passé et le danger à venir, était une sainte et vivante image de la foi. Cette trêve dura une demi-heure à peu près. Puis la pluie commença à retomber plus épaisse, le tonnerre à gronder plus fort, le ciel à s'ouvrir plus enflammé, et le cri déjà si connu, « La bourrasque, la bourrasque !» retentit de nouveau derrière la cabine. Aussitôt les matelots tirèrent les avirons, les rangèrent le long du bord, et se tinrent de nouveau prêts à la manœuvre. Nous eûmes alors une nouvelle répétition de la scène que j'ai racontée, moins l'épisode de la voile, plus un événement qui le remplaça avec un certain succès. Nous étions au plus fort de la bourrasque, bondissant, virant, tournant au bon plaisir du vent et de la vague, lorsque tout à coup une tête monstrueuse, inconnue, fantastique, apparut à l'écoutille de l'arrière. Absolument à la manière dont sort un diable par une trappe de l'opéra. Et après avoir crié deux ou trois fois « Agua, agua, agua !» s'abîma de nouveau dans les profondeurs de la cale. Je crus reconnaître Giovanni. Cette apparition n'avait pas été vue seulement de nous seuls, mais de tout l'équipage. Le capitaine dit deux mots à Pietro, qui disparut à son tour par l'écoutille. Une seconde après, il remonta avec une émotion visible et s'approchant du capitaine. « C'est vrai » murmura-t-il. Le capitaine vint aussitôt à nous. Écoutez, dit-il, il paraît qu'il vient de se faire une voie d'eau dans la cale. Si la voie est forte, comme nous n'avons pas de pompe, nous sommes en danger. Ne gardez donc de tout ce que vous avez sur vous que vos pantalons pour être plus à votre aise au cas où il vous faudrait sauter à la mer. Alors, saisissez une planche, un tonneau, une rame, la première chose venue. Nous sommes sur la grande route de Naples à Palerme. Quelques bâtiments passera et nous en serons quittes, je l'espère, pour un bain de 12 à 15 heures. Et le capitaine, pensant que ces mots n'avaient pas besoin de commentaires et que le danger réclamait sa présence, descendit à son tour dans l'écoutille, tandis que Jadin et moi, nous rentrions dans la cabine et nous munissons chacun d'une ceinture contenant tout ce que nous avions d'or. Nous mettions bas, habits, gilets, bottes et chemises. Lorsque nous reparûmes sur le pont dans notre costume de nageur, chacun attendait silencieusement le retour du capitaine, et l'on voyait la tête du pilote qui dépassait le toit de la cabine, ce qui prouvait qu'il n'attachait pas moins d'importance que les autres à la nouvelle que le capitaine allait rapporter. Il remonta en éclatant de rire. La voie d'eau était tout bonnement occasionnée par un tonneau de glace que nous avions emporté de Naples, afin de boire frais tout le long de la route, et que nous avions mis au plus profond de la cale. Une secousse l'avait renversée, la glace avait fondu, et c'était cette eau gelée qui, envahissant le matelas de notre pauvre cuisinier, l'avait un instant tiré de sa torpeur et lui avait fait pousser les cris qui avaient tant effrayé tout l'équipage. Cette bourrasque passa comme la première. Un peu de calme reparut, et avec le calme, le chant de nos matelots. Nous étions écrasés de fatigue. Il devait être à peu près 11 h ou minuit. Nous n'avions rien pris depuis le matin. Ce n'était pas le moment de parler de cuisine. Nous rentrâmes dans notre cabine et nous nous jetâmes sur nos matelas. Je ne sais pas ce que devint Jadin, mais, quant à moi, au bout de 10 minutes, j'étais endormi. Je fus éveillé par le plus effroyable sabbat que j'eus jamais entendu de ma vie. Tous nos matelots criaient en même temps et couraient comme des fous de l'avant à l'arrière, passant sur le toit de la cabine qui craquait sous leurs pieds comme s'il allait se défoncer. Je voulus sortir, mais le mouvement était si violent que je ne pus tenir sur mes pieds et que j'arrivai à la porte en roulant plutôt qu'en marchant. Là, je me cramponnais si bien que je parvins à me mettre debout. « Que diable y a-t-il encore ? » demandai-je à Jadin qui regardait tranquillement tout cela, les mains dans ses poches, et en fumait sa pipe. « Oh mon Dieu ! » me répondit-il, « rien, ou presque rien. » C'est un vaisseau à trois ponts qui, sous prétexte qu'il ne nous voit pas, veut nous passer sur le corps, à ce qu'il paraît. Et où est-il ? Tenez, me dit Jadin en étendant la main à l'arrière. Là, tenez. En effet, je vis à l'instant même grandir, du milieu de la mer où il semblait plonger, le géant marin qui nous poursuivait. Il monta au plus haut d'une vague, de sorte qu'il nous dominait comme de sa montagne un vieux château domine la plaine. Presque au même instant, par un jeu de bascule immense, nous montâmes et lui descendit, au point que nous nous trouvâmes de niveau avec ses mâts de perroquet. Alors seulement, il nous aperçut sans doute, car il fit à son tour un mouvement pour s'écarter à droite, tandis que nous faisions un mouvement pour nous écarter à gauche. Nous le vîmes passer comme un fantôme, et de son bord, ses mots nous arrivèrent lancés par le porte-voix. « Bon voyage !» Puis le vaisseau s'élança comme un cheval de course, s'enfonça dans l'obscurité et disparut. « C'est l'amiral Mollo, » dit le capitaine, « qui va sans doute à Palerme avec le Ferdinand. Ma foi, il était temps qu'il nous vît. Sans cela, nous passions un mauvais quart d'heure. Où donc sommes-nous maintenant, capitaine ? Oh, nous avons fait du chemin. Allez, nous sommes au milieu des îles. Regardez de ce côté et d'ici à 5 minutes, vous verrez la flamme de Stromboli. » Je me tournai du côté indiqué. Et en effet, le temps fixé par le capitaine n'était pas écoulé, que je vis tout l'horizon se teindre d'une lueur rougeâtre, tandis que j'entendais un bruit assez pareil à celui que ferait une batterie de 10 ou 12 pièces de canon éclatant les unes après les autres. C'était le volcan de Stromboli. Ce fut pour nous un phare, et il pouvait nous indiquer avec quelle rapidité nous marchions. La première fois que je l'avais entendu, il était à l'avant du bâtiment. Bientôt nous l'eûmes à notre droite, bientôt enfin derrière nous. Sur ces entrefaites, nous atteignîmes 3 heures du matin et le jour commença à se lever. Je n'ai vu de ma vie plus splendide spectacle. Peu à peu la tempête avait cessé. quoique le mistral continuât toujours de se faire sentir. La mer était redevenue d'un bleu azur et offrait l'image d'alpes mouvantes, avec leurs vallées sombres, avec leurs montagnes nues et couronnées d'une écume blanche comme la neige. Notre spéronard, léger comme la feuille, était balayé à cette surface, montant, descendant, remontant encore pour redescendre avec une rapidité effrayante et en même temps une intelligence suprême. C'est que le vieux Nunzio n'avait pas quitté le gouvernail. C'est qu'au moment où quelqu'une de ces montagnes liquides se gonflait derrière nous et se précipitait pour nous engloutir, d'un léger mouvement, il jetait le spéronard de côté et nous sentions alors la montagne, momentanément affaissée, bouillonner au-dessous de nous, puis nous prendre sur ses robustes épaules, nous élever à son plus haut sommet, de sorte qu'à 2 ou 3 lieues autour de nous, nous revoyons tous ses pics et toutes ses vallées. Tout à coup la montagne s'affaissait en gémissant sous notre carène. Nous redescendions précipités par un mouvement presque vertical, puis nous nous trouvions au fond d'une gorge, où nous ne voyions plus rien que de nouvelles vagues prêtes à nous engloutir, et qui au contraire, comme si elles eussent été aux ordres de notre vieux pilote, nous reprenaient de nouveau sur leur dos, frémissant pour nous reporter au ciel. 2 ou 3 heures se passèrent à contempler ce magnifique spectacle, au milieu duquel nous cherchions toujours les côtes de la Sicile, dont nous devions cependant approcher, puisque nous venions de laisser derrière nous Lipari, l'ancienne Méliganis, et Stromboli, l'ancienne Strongyle. Mais devant nous, un immense voile s'étendait comme si toute la vapeur chassée par le mistral s'était épaissie pour nous cacher les côtes de l'antique Trinacrie. Nous demandâmes alors au pilote si nous naviguions vers une île invisible et s'il n'y avait pas espérance de voir tomber le nuage qui nous cachait la déesse. Nunzio se tourna vers l'ouest, étendit la main au-dessus de sa tête, puis se tournant de notre côté. « Est-ce que vous n'avez pas faim ? » dit-il. « Si fait, répondîmes-nous d'une seule voix. Il y a 20 heures que nous n'avons rien mangé. Eh bien, déjeunez, je vous promets la Sicile pour le dessert. »« Vente Sardaigne ?» demanda le patron. « Oui, capitaine, » répondit Nunzio. « Alors nous serons à Messine aujourd'hui, ce soir, 2 heures après l'Ave Maria. »« C'est sûr ?» demandai-je. « Aussi sûr que l'Évangile, » dit Pietro en dressant notre table. « Le vieux l'a dit. » Ce jour-là, il n'y avait pas moyen de faire la pêche. En revanche, on tordit le cou à 2 ou 3 poulets. On nous servit une douzaine d'œufs, on nous monta 2 bouteilles de vin de Bordeaux et nous invitâmes le capitaine à prendre sa part du déjeuner. Comme il avait grand faim, il se fit moins prier que la veille. Au reste, quand je dis que Pietro mit la table, je parle métaphoriquement. La table, à peine dressée, avait été renversée et nous étions forcés de manger debout en nous adossant à quelque appui, tandis que Giovanni et Pietro tenaient les plats. Le reste de l'équipage, entraîné par notre exemple, commença à en faire autant. Il n'y avait que le vieux Nunzio qui, toujours à son gouvernail, paraissait insensible à la fatigue, à la faim et à la soif. « Dites donc, capitaine, demandai-je à notre convive, est-ce qu'il y aurait encore du danger à envoyer une bouteille de vin au pilote ?»« dit le capitaine en regardant autour de lui, « la mer est encore bien grosse. » Une vague est bientôt embarquée. Mais un verre, au moins. Oh, un verre, il n'y a pas d'inconvénient. Tiens, dit le capitaine à Pépino, qui venait de reparaître. Tiens, prends ce verre-là et apporte-le, vieux, sans en répandre, entends-tu? Pépino disparut dans la cabine, et un instant après, nous vîmes au-dessus du toit la tête du pilote, qui s'essuyait la bouche avec sa manche, tandis que l'enfant rapportait le verre vide. Merci, Excellence, dit Nunzio. Merci. Ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas, Vincenzo? Une seconde tête apparut. Le fait est qu'il est bon, dit Vincenzo. Et il disparut. Comment, ils sont 2, demandai-je. Oh, dans le gros temps, ils ne se quittent jamais. Ce sont 2 vieux amis. Alors un second verre. Un second verre, soit, mais ce sera le dernier. Pépino porta à l'arrière notre seconde offrande, et nous vîmes bientôt une main qui tendait à nous sur le verre scrupuleusement vidé jusqu'à la moitié. Nunzio ôta son bonnet, nous salua et but. « Maintenant, Excellence, dit-il en rendant le verre vide à Vincenzo, je crois que si vous voulez vous retourner du côté de la Sicile, vous ne tarderez pas à voir quelque chose. » Effectivement, depuis quelques minutes, nous commencions à sentir des bouffées de vent qui venaient du côté de la Sardaigne. et dont nous avions profité en ouvrant une petite voile latine qui se hissait au haut du mât placé à l'avant. Au premier souffle de ce vent, les vapeurs qui pesaient sur la mer se soulevèrent comme une fumée détachée de son foyer, puis découvrirent graduellement les côtes de Sicile et les montagnes de Calabre, qui semblèrent d'abord ne faire, depuis le Cap Blanc jusqu'à la pointe du Pizzo, qu'un même continent dominé par la tête gigantesque de l'Etna. La terre fabuleuse et mythologique d'Ovide, de Théocrite et de Virgile, était enfin devant nos yeux, et notre navire, comme celui d'Énée, voguait vers elle à pleine voile, non plus protégé par Neptune, l'antique dieu de la mer, mais sous les auspices de la Madone, étoile moderne des matelots.